Bienvenue à l'expérience audio Simplement plein air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner. Et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Tout le monde aime le camping. Le réveil matin remplacé par le chant des oiseaux. Les après-midi au bout du quai, les pieds dans l'eau. Les soirées partagées autour du feu. Les maringouins, le poêle au propane qui démarre pas, la tente qui fuit, le matelas qui dégonfle, l'eau trop froide. OK, on peut rien faire pour l'eau trop froide. Mais pour le reste, il y a ProNature, Rouyn-Noranda.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564. À la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, salut tout le monde. On est de retour à Simplement plein air. Et là, on va aller faire un tout petit tour dans le nord du Québec, dans le coin de Radisson. Si vous ne savez pas où c'est, ben, un petit Google et vous allez voir. Vous allez trouver l'endroit assez facilement. Et on va aller jaser avec notre bon ami et chroniqueur, M. Sylvain Paquin. Salut Sylvain.
Salut Guy.
Et voilà, hey, ce matin, on enregistre un peu différemment. Mais on enregistre quand même, on est là. Donc, c'est ce qui est important. Écoute Sylvain, tu es en pleine saison de cueillette de matsutake, puis il y a des beaux projets, des vraiment beaux projets qui se forment, un projet dont tu as travaillé longtemps aussi, le projet EU Matsutake de la famille Cox. Ben là, c'est fait, parle-nous-en donc un petit peu de ça.
Ben oui, justement, il y a une coop qui a été créée dernièrement, justement à Chicoutimi pour ce qui est matsutake et produits forestiers non ligneux. Mais je te dirais, c'est il y a eu beaucoup de terrain de fête. Il y a eu imagerie spectrale par infrarouge, il y a eu traçabilité, chaîne de froid, inventaire de la ressource, création de cartes justement de la ressource. Puis, ben, je te dirais, très heureux de voir ce projet aller de l'avant après toutes les années de travail terrain. Puis, ben, cette année, on a eu quand même une première sortie où les champignons, comme d'habitude, sont pas nécessairement de top qualité parce qu'ils sont quand même véreux à cause des moustiques et toutes les petites bébites qu'on retrouve comme chaque année. Mais là, on a fait notre première sortie dernièrement. Ça a été très, 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 très bon. Hier, j'ai gradé du champignon jusqu'à 22 heures. Là, il y a un envoi qui va s'en aller justement aujourd'hui pour le consul général du Japon à Montréal. Je te dirais, c'est la folie du champignon, mais on a un gros problème de météo, grand vent. C'est un peu pourquoi qu'on a des problèmes de communication aujourd'hui avec notre chronique. Mais je te dirais, on devrait avoir du beau temps à partir de demain jusqu'à dimanche. Fait que je te dirais, ça va être la cueillette intensive.
Oui, puis là, tu viens de dire quelque chose qui m'a comme sonné un peu à l'oreille. Tu disais que les moustiques et les bébites, ben les bébites on le sait, mais les moustiques aussi peuvent affecter le matsutake.
Ben ils vont pondre dedans.
Ah, ok.
Tu vas avoir certaines sortes de petits bidules volants qui vont rentrer dans le champignon, qui va aller se loger dans les lamelles. Tu sais, t'as comme un genre de petite peau là, qui se forme quand le champignon prend de l'expansion avant que ça éclate. Souvent, des fois, il se ramasse un paquet de bébites, sauf que avec les nuits froides, les journées pas trop chaudes, ben les champignons deviennent, je te dirais, 80 à 90% exempts de larves, de petits moustiques ou de petits insectes. Donc, le début de la saison, la première sortie, ce qui est intéressant, c'est qu'on va favoriser... on va stresser un peu le mycélium, on va l'aider à se reproduire parce qu'un coup qu'on cueille le champignon, en le laissant là, le champignon va vieillir, va relâcher sa poussière, donc il va se parer. Puis, ben, c'est un peu comme l'aider à se reproduire. Et lui, en voulant justement se reproduire comme n'importe quel petit jeune homme, ben, il va vouloir faire d'autres fruits. Puis, ben, quand la température est bonne comme là, malgré la pluie, ben on réussit à avoir du grade numéro 1, de beaux petits boutons de matsutake de top qualité. C'est un petit peu comme l'agriculture. C'est un peu pourquoi que le projet a mis du temps, parce qu'on voulait voir justement comment réagissait à prendre vraiment de la ressource. Puis aussi, ben, de créer une cueillette responsable qui respecte l'environnement, puis aussi, surtout, qui respecte la ressource.
Oui, bien exactement. Et puis quand tu dis... l'abondance du matsutake, tu parles de quoi là? 3-4 livres, 2-3 livres, ou c'est une belle récolte que les gens naturellement du sud et les gens d'ailleurs, du sud, quand je parle du sud du Québec naturellement, vont pouvoir déguster?
Ah, absolument. Il y a plein d'envois qui sont prévus cette semaine, la semaine prochaine, jusqu'à les premières neiges. Fait qu'on en a encore pour quelques semaines. Remarque, tout va dépendre de la météo aussi. Là, si on a de la pluie pendant 10, 12, 15 jours, ça risque d'être un petit peu problématique. Mais effectivement, il va en avoir sur le marché. Il y en a déjà sur le marché un peu. Mais le monde va pouvoir déguster ça assez facilement. Et je te dirais, la ressource est abondante. Le seul problème, c'est ça a toujours été comme les gens de mercenaires. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut vivre avec. Là.
Oui, puis ça, c'est une chose que vous avez encore cette année. Il y a encore des gens qui montent là, les fameux mercenaires, ouais, comme tu le dis.
Ah, absolument, mais les mercenaires, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont débarqués en début de saison. La saison, vu que moi, je pourrais dire nos indicateurs qui nous disent que, parce qu'on fait des petites récoltes à tous les jours pour savoir est-ce que c'est exempt de vert, combien de pourcents que c'est, les champignons sont véreux et tout ça, ben, ils sont venus, ils ont fait une récolte. On les a vus, on sait où ce qu'ils étaient, on sait dans quel endroit qu'ils ont été, mais la plupart de leurs champignons sont remplis de vert. Donc oui, c'est peut-être bon pour sécher, mais au niveau de la restauration, c'est pas bon pour tout, là. Mais c'est ça, je te dirais, plus ça change, c'est pareil. Là.
Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce tu dirais là, la meilleure façon de les conserver, c'est justement de les déshydrater, mais aussi, comme tu le dis assez souvent, la meilleure façon, c'est de les consommer frais, hein?
Oh, absolument. Ben écoute, c'est pas compliqué. Le matin, quand tu fais 5 degrés, 6 degrés en forêt, que tu prends tes champignons, que tu respectes ta chaîne de froid, donc qu'ils ne se ramassent pas à 25 degrés, qui sont mis tout de suite au frigo et qui sont envoyés sur le marché, mettons, en 24 et 36 heures. Si la chaîne de froid est respectée, je te dirais, tu peux le garder dans ton frigo, dans un sac de papier pendant 10 à 15 jours.
Ah, OK.
Fait que okay. C'est quand même, t'as le temps de le traiter, t'as le temps d'en manger frais, t'as le temps d'en couper, en mettre dans de l'huile, dans des beaux pots maçons, une belle huile, l'huile végétale de préférence. Et je te dirais, tu peux facilement prendre les gros chapeaux là, qui sont tous déployés, mettre de l'huile, mettre ça sur le barbecue et te faire un hamburger avec deux chapeaux de matsutake, une bonne tranche de viande, puis un morceau de fromage, je te dirais, c'est le paradis.
Oui, là, tu me donnes l'eau à la bouche, là, on dit. Et puis ça, là, tu dis, toi, admettons qu'on a une température qui est vraiment idéale, le matsutake, ça peut aller jusqu'à quand environ?
Ben, je te dirais, j'ai déjà récolté, mais je te dirais, chaque année, les premières neiges. Parce que, tu vois, on peut avoir de la neige à 0 degré, 2 degrés, se lever un matin et avoir quelques centimètres de neige, la neige va fondre, mais le sol va être à 8 ou il va être à 6 degrés, le champignon va être à 9 ou 10. Donc, tant que le sol n'est pas gelé, je te dirais, donc ça peut aller facilement. Moi, j'ai déjà ramassé du matsutake à la troisième semaine d'octobre.
Wow, c'est quand même bon. Hein? Ah, écoute, Sylvain, le temps file rapidement. Mais si on veut plus d'informations, naturellement, parce que le matsutake, on le sait que c'est un champignon que tu as étudié longtemps, que tu étudies encore, puis c'est une passion pour toi. Si on veut avoir de l'information, parce qu'on sait que tu es aussi photographe animalier, tu organises aussi des journées plein air, si on veut réserver, on fait quoi?
De manière la plus simple, www.animalparking.info et une petite recherche avec le hashtag animalparking, vous allez me trouver. Gênez-vous pas, vous avez des questions. Puis en passant, cette année, Guy, du matsutake, il y en a un petit peu à tous les... un petit peu partout au Québec. Il y en a en Abitibi, en Estrie, à Charlevoix. Cette année, c'est une année exceptionnelle sur le champignon.
Ah, tu vois. J'en ai pas encore trouvé en Gaspésie, mais je connais pas assez ça pour... le voir, donc probablement que j'en trouverai jamais. Ben, en tout cas, du moins pas pour le moment. Donc, nous, ben Sylvain, écoute, on va jaser la semaine prochaine.
Excellent, Guy. Bonne semaine.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
Un commercial simplement plein air.
Et voilà, nous sommes de retour. Et puis ceux qui nous écoutent depuis fort longtemps, vous savez que la case là où on est présentement, ben, on l'a réservée pour aller prendre une bière. Eh oui. On vous invite tous, on vous invite tous, oui, à nous écouter et à écouter mon co-animateur, là, mon chroniqueur, M. Kevin Plante-Germain de la balado-diffusion L'Âge de bière. Salut, Kevin.
Salut, Guy.
Hey, cette semaine, tu vas nous parler de la microbrasserie Chassepinte et plus précisément une bière dénommée la Gélinotte. Comme la perdrix.
Ben, non seulement comme la perdrix, mais sur la bouteille, c'est ça le dessin. C'est une belle perdrix pastel qui est dessus.
Oh, ça doit être beau, ça.
Fait que c'est sûr qu'elle n'est pas à confondre et le nom s'y colle bien. Mm-hmm. La Chassepinte est une microbrasserie de Lens-Saint-Jean dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une bière qui est certifiée biologique à 100%. Donc maintenant, c'est rendu ça la nouvelle cote. Hein. Il y a de plus en plus de microbrasseries qui cherchent ça. Ah. On veut des ingrédients qui sont bio. Fait que celle-là elle en fait partie. C'est une bière avec un taux d'alcool de 5%. Donc on est dans la belle norme. Puis on a un indice d'amertume de 24, ce qui se trouve à être quand même relativement bas. La spécialité la spécificité de cette bière-là, c'est que c'est une aile blonde qui a été brassée avec de la jeune pousse de sapin baumier.
Ah, de là vient finalement, qu'est-ce que tu disais là, le nom m'échappe là, mais les spécifications qu'ils recherchent.
Oui, c'est ça. C'est une bière où... en fait, la Chassepinte font beaucoup, beaucoup de bières avec des plantes boréales. Puis celle-là, c'est dans leur gamme générale. La semaine passée, je parlais d'une bière blanche, de la Baleine endiablée, qui est encore un peu dans leur brassin régulier. Ben là, je vois un peu dans le même sens. Donc, c'est la Blonde Ale. C'est une bière qui, une fois versée dans le verre, elle a une robe jaune claire, bien voilée. Elle a une mousse crémeuse aux petites bulles. Et ces bulles-là s'estompent doucement, laissant un petit col sur le dessus. Puis quand on regarde à travers le verre, on a une activité effervescente qui est quand même tranquille à l'intérieur du verre. Au nez, on a des odeurs de céréales, un petit ton d'agrumes qui est tout, tout doux. Puis on a une fine impression épineuse en fond, là, en arrière du nez. Quand on la déguste, quand on la prend en bouche, introduction en rondeur modérée. On a des saveurs bien céréalières de pain, de malt. L'effervescence, ça vient gratter un petit peu la langue en passant, puis va rehausser le côté croquant de la bière. En fin de bouche, c'est là qu'on va sentir une impression de gomme de sapin qui vient envelopper le palais. De façon modérée, c'est rien d'agressant, c'est rien de trop présent. C'est pas comme une bière d'épinette, par exemple. Là. Mm-hmm. C'est vraiment, on va aller chercher vraiment une espèce de fond boisé, ben pas boisé dans le sens du bois, mais forestier, j'oserais plus dire, dans la finale de cette gorgée-là. L'amertume super légère, elle a des petites touches résineuses, puis la finale, elle va se trouver être un peu plus sèche et céréalière que son milieu pendant la dégustation, par exemple.
Mais si, juste comme ça en passant, Kevin, c'est quand même oser pousser l'enveloppe un peu plus loin, tu sais, que de faire de la bière bio, parce que finalement, on ne sait pas, hein, il doit y en avoir de l'expérimentation, si on veut. Il doit y avoir des brassins qui ont pris le bord de l'aqueduc, là, parce que c'est pas évident, là. Bon, c'est pas évident de faire ça, là. Ça doit être assez spécial, là.
C'est pas si pire. Dans le fond, le défi de ça, c'est de trouver les ingrédients qu'ils sont,
c'est
finalement.
Ça. Ouais,
c'est surtout ça, en fait. Puis c'est essentiellement ça, pour recevoir une certification bio, il faut juste que tous les ingrédients soient certifiés bio. Puis il y a un suivi qui est très rigoureux là-dessus, dans le sens où un microbrasseur doit prendre en note les numéros de l'eau qu'il utilise pour ses maltes. Il y a vraiment tout un suivi super sévère pour recevoir une certification comme ça qui est officielle, puis qui veut dire beaucoup aussi. Là. Ça veut dire qu'on encourage beaucoup l'agriculture biologique, beaucoup d'ingrédients qui sont cueillis de façon à la main dans les forêts, ces choses-là. Donc, c'est ça qui rajoute un côté qui est beaucoup plus intéressant. Ça donne des bières boréales, et non la compagnie boréale, mais des bières de type boréale qui est super intéressante. Ça, c'en est une, c'est dans les bases, mais il y en a beaucoup aussi là qui. Toutes les bières de la Chasse-Pinte sont dans cette même gamme-là, puis c'est vraiment intéressant c'est vraiment passionnant à explorer. Surtout peut-être pour les gens de simplement plein air qui aiment beaucoup les odeurs puis les saveurs de la forêt puis du plein air. Mais on en retrouve beaucoup dans ces bières-là de la Chasse-Pinte, étant donné que c'est des ingrédients de la nature québécoise. Fait que c'est ça qui est le fun.
Absolument. Puis c'est tellement intéressant aussi. On est tous des amants, là. Les personnes qui, tu sais, on parle souvent de chasseurs, on parle souvent de pêcheurs, mais il y a aussi les randonneurs. Il y a maintenant les gens qui font du vélo à roues surdimensionnées, qui sont dans le bois. Tu sais, puis quand on est en forêt, hein, je sais pas si à un moment donné ça t'a donné, ça donne pas mal à tout le monde, je pense. Tu sais, à un moment donné, on a une effluve, là, une senteur qui nous vient là, d'une essence quelconque de bois. Là. C'est tellement, tellement plaisant. Hein. Puis on retrouve ça là, de plus en plus dans les bières aussi. Là. Tu sais, quand tu parles d'une bière, là, genre, on va appeler ça type boréal, là, si tu veux. Là. Pas de boréal, mais boréal, là, de la forêt boréale. On va chercher nos produits. C'est tellement plaisant. C'est le fun. C'est oui. Vraiment encourageant.
Puis un autre domaine qui excelle énormément dans cette sphère de saveurs-là, c'est les gins artisanaux.
Oui.
Au Québec, il y a beaucoup de gins avec des épices et des plantes boréales qui se font puis qui sont vraiment à couper le palais, pour ne pas dire à couper le souffle. Si je pourrais faire une petite mention honorable là, au gin Kilomètre 12 de la distillerie du Fjord, qui est vraiment, selon moi, le meilleur gin boréal fait au Québec et peut-être même, j'oserais dire, dans le monde. Si jamais vous aimez les gins artisanaux, le Kilomètre 12, c'est dans le top du boréal, c'est dans le top du bois. C'est comme tu disais, Guy, c'est prendre une marche dans le bois puis la liquifier, tu sais.
Oui, ben oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, ça nous fait, je sais pas, ça nous fait rêver. C'est vraiment, pour moi, là, en tout cas, là, une bonne bière là, comme ça, là, ou un bon gin comme ça, c'est tellement... tellement le fun, puis surtout de voir l'appellation, de voir le... Tu sais, tu regardes la perdrix, c'est réconfortant, ouais. Je trouve, en tout cas, pour moi, là. Mais je suis certain qu'il y a des chasseurs de perdrix qui vont se ruer vers leur microbrasserie. Est-ce qu'on peut retrouver cette bière dans la région de Québec ou juste au lac?
partout un peu, Québec, Montréal, certains petits marchands ailleurs, ici et là, mais la microbrasserie est vraiment, on peut la trouver un peu partout, là. C'est vraiment quand même dans les classiques, ouais.
Oh, donc très intéressant. Et si tu nous parlerais un peu de la balado, l'âge de bière, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là?
Ben, de ce temps-là, on reçoit des gens, on déguste de la bière, on fait des découvertes, on discute avec nos amis, on discute entre nous, on déguste des bières commerciales, on déguste des bières artisanales, on se fait beaucoup de fun entre nous autres, on se fait du fun pour vous autres aussi, pour votre divertissement. Donc, c'est à tous les jeudis, vous pouvez réécouter un nouvel épisode de L'Âge de bière. On est disponible sur tous les balado-diffuseurs classiques. On est aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc, vous pouvez nous suivre là-dessus. Puis, on a beaucoup de fun de semaine en semaine à vous démontrer ce qu'on peut trouver un peu partout dans les épiceries ou dans les dépanneurs de microbrasse.
Oui, puis les nouvelles épisodes sont tous les jeudis. Rappelez, ouais. C'est à se rappeler. Et puis, ben là-dessus, ben nous, naturellement, on va se rejoindre la semaine prochaine, mon cher Kevin, et notre message hebdomadaire, si vous prenez un coup, laissez donc le volant de côté. Hein? On le répète souvent, on le dit souvent, on n'a pas fini de le dire, parce qu'il y a encore des accidents et des incidents, mais des accidents mortels qui sont causés par des personnes qui n'ont pas encore compris. Donc, s'il vous plaît, modération. Vous prenez une bière, prenez pas le volant.
C'est mieux de ne pas prendre son char que de revenir encore billard.
Absolument, mon cher, tu l'as bien dit. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, Kevin. Bonne semaine et bonne bière.
Merci, toi aussi, Guy.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
C'est parti pour notre rendez-vous. Bonjour, bienvenue. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rendez-vous-rencontre. Notre invité aujourd'hui déclare avoir tout perdu à cause de Compostelle. Intriguant. Une petite twist là-dedans. Je vous parle de ça donc tantôt. Il s'appelle Martin Benoît Leblanc. Ça va être un peu venteux. Je l'ai rencontré dans un parc en nature. Et puis, c'était bien le fun. Donc, on se parle de ça dans les prochaines secondes. Donc, c'est votre rendez-vous-rencontre que vous écoutez via la radio de votre préférence ou encore peut-être en rediffusion par le Facebook ou encore le YouTube, la chaîne YouTube Québec Compostelle, mais également via le podcast de cette émission. On va échanger sur la randonnée pendant les prochaines minutes, comme on aime si bien le faire à chaque semaine. Vous partagez des informations peut-être pour vous rassurer, vous préparer, vous équiper. Informations, préparation sur le matériel, les circuits également. On aime parler évidemment de Compostelle en Europe. C'est la base des randos communautaires, si on veut, mais aussi du Chemin du Québec. Il y a de plus en plus de passages. Alors qu'on se parle présentement, on a des Français qui sont sur le chemin, et pas juste un, pas juste deux. Deux couples français, d'ailleurs, qui sont sur le chemin. Et ça, c'est bien trippant. Puis il y a d'autres personnes qui sont sur le point de partir également faire des tronçons. Le Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Vous n'êtes pas obligé de le faire au complet. Vous faites le tronçon que vous voulez. Donc, n'oubliez pas aussi qu'on répond à vos questions via québeccompostelle.com. Puis si vous avez des suggestions de gens qui pourraient être intéressants, ben vous pouvez nous en parler à québeccompostelle.com. Donc, Martin Benoît Leblanc. Vous saurez plus tard pourquoi je dis qu'il a tout perdu à cause de Compostelle, mais comme d'habitude, au départ, il se présente.
Je suis un gars des îles de la Madeleine, je suis né là. J'ai été à l'extérieur pour étudier comme la majorité des jeunes de mon temps. On sait qu'après la Pocatière, j'ai fait l'Université Laval. Et ensuite, je suis retourné aux îles un petit peu. Et en 1987, je suis allé aux États-Unis faire mon doctorat en chiropratique. Et ensuite, j'ai pratiqué sur le continent, qu'on appelle nous autres la Grande Terre, et pendant quelques années. Et je suis retourné aux îles en 1997. Et en 2013, je suis revenu sur la Grande Terre. Et en 2015, je suis déménagé ici à Saint-Quentin-sur-Richelieu.
C'est pour lui, Compostelle, un environnement où il y a un très, très, très grand apprentissage et un apprentissage qui se fait rapidement. Et c'est pour ça qu'il aime beaucoup aller faire un tour à Compostelle.
La raison, on dit on fait à Compostelle. Ah oui, j'ai pas besoin de faire à Compostelle. Ma blonde me dit toujours, ah, pourquoi te donner de la misère? Puis fait, la raison pourquoi que moi j'ai voulu faire à Compostelle, oui, on peut faire des chemins tout le long ici, mais la raison pourquoi que j'ai fait à Compostelle, c'est parce que dans ces endroits-là, les choses sont dupliquées, ça va plus vite que la normale. Quelque chose, un apprentissage qui prendrait bon, peut-être 5-6 mois, tu vas le vivre dans une journée ou deux. Oui. Et c'est pour ça que dans ces lieux-là, c'est vraiment, tout est dupliqué, là, c'est incroyable. Les choses qui se produisent, ça va. Et tu te poses des questions, tu te dis pourquoi ça m'est arrivé, mais tu as la réponse tout de suite. Mm-hmm. C'est pour ça que, oui, marcher pour marcher, c'est bien. Marcher dans des endroits, mais comme tu disais tout à l'heure, aussitôt qu'on voit de la nature, qu'on est en contact avec la nature, on revient à la base. Il n'y a plus rien. Et puis, on est vraiment transcendé, si tu veux. On ne pense pas à d'autres choses. Même si on pense à nos problèmes, on fonctionne sur un autre rythme.
Ouais, quand on est là-bas ou encore au Québec et qu'on fait de la randonnée pédestre de longue durée, c'est vrai qu'on peut penser à nos situations de vie, mais tu sais, en même temps, on se libère l'esprit, puis peut-être même qu'on trouve des solutions, c'est ça qui est le fun. Martin, non seulement a vécu ça, mais il a aussi décidé d'écrire un livre sur toutes ces synchronicités qu'on appelle souvent des hasards qui lui sont arrivés. Et c'est pas mal intéressant ce qu'il a nous raconté là-dessus.
Ce livre-là, la raison pourquoi je voulais le faire, voulait expliquer au monde que oui, c'est le fun de faire Compostelle. C'est à la mode présentement, mais il faut se préparer. Et puis même si on n'est pas préparé. Et comme il y a un pèlerin qui m'a dit, c'est pas toi qui fais le chemin, c'est le chemin qui te fait. Donc dans ce livre-là, je raconte un petit peu mon départ des îles de la Madeleine en avion et les choses qui se sont produites qui sont incroyables. Et mon arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port et le travail, la marque que j'ai faite tous les jours, les choses qui se sont produites, les gens que j'ai rencontrés, les situations qui se sont produites, qui t'amènent à dire « Oups, qu'est-ce qui se passe ?» Et des synchronicités, des hasards ou des impressions qui se produisent, que tu dis « ça se peut pas que ça arrive ». Et puis, ça se produit. Donc, j'explique un petit peu le cheminement que j'ai fait, les rencontres que j'ai faites, les personnes que j'ai rencontrées. Et puis, je montre un petit peu de photos. Et c'est ça. C'est un petit peu pour expliquer au monde, même si vous êtes préparé, vous n'êtes jamais préparé assez.
C'est complètement fou ce qu'il dit là, puis c'est tellement vrai. Oui, ce qu'on fait avec Québec Compostelle, vous aide à vous préparer, éviter les ampoules, pas avoir mal dans le dos, apporter le bon équipement et tout. Mais il y a plein d'affaires spontanées, imprévues qui vont vous arriver là-bas. Et ça fait partie du chemin. Bon. On n'espère pas que des choses aussi dramatiques que ça vont vous arriver. Et là, il me dit ça à la fin pratiquement de l'entrevue. Ben voyons, on aurait dû commencer avec ça. Et en même temps, il va vous raconter que c'est une des meilleures choses qui lui est arrivée. Il a tout perdu. Ah, je parle pas de sa femme, de ses enfants, puis de la maison, tout ça, là. Non, non, pendant qu'il était là. Et ça, c'est très, très, très rare que ça arrive. C'est très rare. Mais il s'est fait voler. Il a perdu passeport, argent, carte de crédit. Puis en bout de ligne, il dit que c'est un cadeau.
Moi, c'est ça. Moi, dès le départ, mon chemin était tracé. Et ça a été une expérience assez douloureuse. Parce qu'au bout de 5 jours, je me suis fait voler.
Ah ouais?
Mon passeport, mes cartes de crédit, mon identification. Donc, j'étais le pèlerin à 100%. Aucune identification,
okay.
Aucun argent. Et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée.
Ah ouais?
Parce que s'il ne me serait pas fait voler, je n'aurais pas vécu le chemin du Compostelle comme je l'ai vécu. Parce que j'ai vécu la fraternité et la nature humaine, mm-hmm. Elle peut être questionnable, des fois, elle peut être méchante. Mais la nature humaine, des fois, elle me surprend. Et puis dans des endroits, dans des situations les plus pénibles, on voit la bonté humaine, c'est incroyable. On m'a donné de l'argent et 3 semaines plus tard, après mon vol, je rencontrais quelqu'un qui disait « Ah, tu viens d'où? On vient d'Allemagne. Ah, moi, je viens du Québec. Ah, c'est toi qui t'es fait voler. Il me donnait 50 euros. Tu ferais un bout avec ça. Ouais. Ah, ben viens avec nous autres, on va te payer l'hôtel, on va te payer le land. » C'est tout le temps comme ça.
Comment expliquer ça, hein? Une situation douloureuse qui finalement a été un des grands cadeaux pour lui. C'est ce qu'il nous explique. Bon, écoutez, quand vous venez faire une formation, là, je vais vous expliquer comment on fait pour pas se faire voler son passeport, carte de crédit puis son argent. Il y a des trucs. Évidemment, Martin était peut-être un petit peu moins préparé à ce niveau-là. On met pas tout ça dans son gros sac, là, on a d'autres façons là, de fonctionner. Puis ça arrive très, très rarement. Alors ne faites pas peur là-dessus. Ça vous tente de vous de venir faire un tour, regarder sur le calendrier, trouver votre atelier, trouver votre chemin. Dans les prochaines semaines, on a des week-ends formation en rando. Oui, on en a en septembre, octobre, novembre. On en a tout le temps. On a aussi des rando séjours, mais le prochain septembre, il est complet. On s'en va marcher le secteur fleuve en Gaspésie, donc complet. Mais en octobre, on a un magnifique circuit également qu'on va vous offrir les couleurs en plus. Alors regardez ça. Il y a des ateliers en ligne également. Si jamais vous êtes plus éloigné de moi, vous pouvez regarder les ateliers en ligne pour vous préparer. Puis par la suite, peut-être venir faire un week-end formation ou encore une rando d'une semaine. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est aussi sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air que vous nous écoutiez en balado. Au boulot, au dodo, faites attention au boulot. Au dodo, ben... on est dans vos rêves. Voilà. Donc, c'est le moment de l'émission où on parle naturellement mycologie. Quand on parle mycologie chez Simplement plein air, ben, on en parle avec M. Roger Larochelle. Roger, oui, c'est ça. Roger Larochelle, oui. Roger Larivière, parce que je viens de parler justement avec notre ami M. Larochelle qui s'appelle Guy. Oui, on parle mycologie et naturellement, ben on sait que M. Larivière est conférencier, est aussi auteur, est aussi éditeur. Hein, on va voir aujourd'hui, là, la langue me fourche, mais vous allez voir que le sujet est fort important. C'est un sujet qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus depuis une couple de semaines, là, et puis qui titille un peu. Doit-on couper ou arracher un champignon? Ben, M. Larochelle m'a dit qu'il en discute beaucoup dans ses conférences, donc on va aborder le sujet. Premièrement, bonjour M. Larivière.
Oui, bonjour. Alors, ça me fait plaisir comme biologiste de répondre à ce genre de questions-là.
Oui, parce que je vous dirais que beaucoup de gens, j'ai eu toutes sortes de commentaires qu'on m'a envoyé, et puis je les ai dirigés vers vous, naturellement. Mais c'est ça, il y a un questionnement qui se pose. Il y a deux écoles de pensée, dont une qui me disait, ben là, si on le coupe, ça pourrit, puis c'est pas bon pour le mycélium. Et puis si on l'arrache, ben ça l'enlève. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là? Comment qu'on démêle ça?
Bon, les gens qui vous ont interpellé sur le sujet avaient tout à fait raison de parler d'école de pensée parce qu'en fait, il y a eu comme des modes. C'est un peu, puis on en reparlera probablement tantôt, c'était la mode de cueillir seulement la moitié de la talle quand on arrive dans une talle de chanterelle, par exemple. Mais le fait de cueillir un champignon en le coupant ou en l'arrachant, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève seulement une partie de la fleur, du champignon ou la fleur en entier, et la partie qui reste vivante se trouve dans le sol. Et dites-vous bien que le mycélium du champignon, il y a toujours le moyen ou les moyens de faire face à ces arrachages-là, si on peut dire. Et il continue de produire ces antibiotiques. Il n'y a pas besoin qu'on le protège. Parce qu'il y a des animaux aussi qui font ce travail-là. Puis les animaux, en général, ils n'ont pas de couteau pour faire une coupe franche. Ils vont souvent prendre le champignon, des fois en entier, ils vont l'extraire. Ou en passant, écoutez, un ours, là, quand ça passe à côté d'un champignon, ça l'arrache. Ça l'arrache au complet.
Oui, c'est un fait.
Ça fait que moi, je pense que le mycélium qui est dans le sol va continuer de faire son petit bonhomme de chemin. Il ne sera pas dérangé par l'action qu'on va poser en surface. Puis il faut se rappeler aussi que le champignon qu'on cueille, c'était à l'origine une petite masse de mycélium. On appelait ça un primordium. Toute petite masse de mycélium, très, très enroulée, très compacte, qui était soit à la presque à la surface du sol ou en profondeur, dépendamment des espèces. Puis, cette petite masse de mycélium-là, en fonction des conditions environnementales, va en quelque sorte, et là je vais utiliser un terme en anglais, va popper à l'extérieur et va grandir, grossir. C'est vraiment comme un bourgeon à fleurs qui s'ouvre.
Exactement. Exactement. Et puis là, ben, naturellement, si on le coupe ou si on l'arrache, ça n'a aucune incidence, si on veut, sur le mycélium. Mais là, vous avez touché un autre point aussi quand on dit on n'en récolte que le tiers ou le deux tiers de ce qu'il y a là,
oui.
Et puis on laisse le restant là. Est-ce que ça a une incidence, ça aussi?
Ça aussi, il y a eu des écoles de pensée et dernièrement, on a bien compris que le fait de cueillir, quand on arrive dans une dalle de champignons, que ce soit des morilles, des chanterelles ou peu importe, qu'on cueille tous les champignons ou qu'on en cueille la moitié, ça n'a pas d'incidence sur la sortie éventuelle du champignon. Même si les champignons se reproduisent par des spores. Les spores, là, quand on cueille un champignon, on va en avoir après les souliers, les pantalons, après nos mains, puis on va en disséminer ailleurs. Alors, vous voyez, on est déjà en train de reproduire le champignon par des spores. Mais il faut savoir que les champignons, ça se reproduit d'abord et avant tout par la partie souterraine qu'on appelle le mycélium. Ça affecte très peu sa reproduction. Puis ce que je dis aussi pendant mes ateliers en lien avec ce sujet-là, c'est imaginez, vous arrivez dans une dalle de chanterelles, mettons il y en a 10. C'est quand même pas une grosse dalle, mais il y en a 10. Alors vous en prenez 5 par altruisme, par souci des autres. Moi j'arrive après vous, puis... il en reste 5, ben là, je vais en cueillir, mettons, 3, puis j'en laisse 2. Puis celui qui arrive après, ben il dit, « Hey, j'en ai un. » Puis l'autre après, ben il dit, « Je suis chanceux, j'en ai vu. J'ai vu une chanterelle. » Alors, vous voyez...
Effectivement.
Vous voyez que, de toute façon, le champignon, ça, c'est prouvé, c'est connu, se reproduit surtout par la vigueur de son mycélium.
Et voilà, donc...
Et non pas par les spores.
C'est ça, mais... donc on voit là, que certaines personnes vont être très contentes là, de ce qu'on discute ce matin, mais ça va en éclaircir plusieurs, parce que, oui, vraiment, il y a beaucoup de questionnements. Hein. Comme vous le dites, l'altruisme, on veut, mais finalement, en bout de ligne, ben, la personne qui va en trouver un, ben, il n'aura plus. Là.
Ben, c'est ça.
Hein,
il veut garder son cale.
Ben oui, parce que...
On peut garder sa dalle.
Ouais, puis il y a plusieurs personnes qui disent, « Ah, mais là, si je récolte toutes, j'en aurai pas l'année prochaine, donc c'est faux, vous pouvez toutes les récolter, il va en avoir encore, s'il y a à en avoir l'année prochaine. »
C'est ça. Et on sait très bien que la poussée du champignon, la poussée d'une dalle, ça dépend vraiment du travail du mycélium qui est dans le sol. Puis on a en gros deux grandes catégories là, de champignons. Les champignons qui décomposent la matière organique, ben eux autres, c'est s'ils vont trouver de la matière organique à décomposer, le mycélium se remplit et les champignons ensuite vont produire une structure, c'est une fleur en fait.
Exactement.
S'ils ne trouvent pas beaucoup de matière organique, ben ils fleurissent pas beaucoup.
C'est ça.
Puis l'autre catégorie de champignons, c'est ceux qui sont associés avec des racines. Ben là, ça dépend aussi des racines des arbres qui leur donnent des sucres. Ben
exactement.
Oui. Puis justement, hier, j'étais avec des forestiers.
Rapidement, M. Larivière, on est rendu pas mal avancer dans notre chronique.
Ah!
Ça va tellement vite. Retenez ça, puis la semaine prochaine, on en discutera justement. Mais okay. On sait que vous êtes conférencier, auteur et éditeur. Si on veut en savoir plus, là, parce que là, Noël approche, hein, puis un beau cadeau de Noël, c'est justement la deuxième édition du livre « Les champignons de la forêt boréale ». Là, c'est de quoi se procurer absolument. Donc, on fait quoi pour vous, réussir à avoir de l'information, si on veut, là?
Écoutez, moi, je suis, j'ai un site web, naturate.ca. Je suis sur Facebook et la deuxième édition de mon livre se retrouve actuellement dans toutes les librairies. Alors, oui, c'est une très bonne idée pour les cadeaux de Noël.
Oui, absolument. Et on rejoint M. Larivière aussi sur le www.naturate.ca. N-A-T-U-R-A-T. Naturabitibi-témiscamingue.ca. Naturate. N-A-T-U-R-A-T. Donc, on se rejase la semaine prochaine, M. Larivière.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca.
En commercial, simplement plein air.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Tout le monde aime le camping. Le réveil matin remplacé par le chant des oiseaux. Les après-midi au bout du quai, les pieds dans l'eau. Les soirées partagées autour du feu. Les maringouins, le poêle au propane qui démarre pas. La tente qui fuit, le matelas qui dégonfle. L'eau trop froide. OK, on peut rien faire pour l'eau trop froide. Mais pour le reste, il y a ProNature, Rouyn-Noranda.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.